Le rugby show est de retour sur vos plateformes de podcast, après quelques semaines de trop longue absence. Peut-être avez-vous cru à des vacances, certes bien méritées, mais nous étions dédiés à la préparation d'un tout nouveau projet. Le projet de vos chroniqueurs presque préférés, c'est celui d'enregistrer leur podcast sur Twitch, une plateforme qui nous permet de diffuser notre podcast en live, en vidéo, et d'interagir en direct avec nos auditeurs. En écoutant le rugby show, peut-être vous êtes-vous déjà posé des questions. Peut-être avez-vous même pensé que ces chroniqueurs racontaient n'importe quoi sur votre joueur préféré. On vous donne l'occasion de venir nous le dire en direct pendant l'enregistrement de nos podcasts, tous les lundis à partir de 21h.
Vous attendiez le jingle ? Eh bien non, pas de jingle. Car voilà, c'est déjà le dernier épisode de l'année 2023 du Rugby Show. Un petit coup de vieux, mais quelle année pour le Rugby Show, puisqu'il y a 9 mois, nous n'existions pas. Le temps d'un bébé, dis donc, putain, ça fait louer. On commence ce dernier épisode par un petit point rétrospectif de l'année, et je suis heureux de le partager avec votre deuxième chroniqueur préféré, Thomas. Je crois sans plus attendre, Thomas, que tu as un peu de data à nous partager.
Ouais, si on récapitule notre année, ou plutôt notre bébé comme tu le disais, ce sont 30 épisodes très chauds pour près de 1000 minutes où on a pu exprimer nos idées dans une délicieuse atmosphère d'acceptabilité sociale. Alors, j'ai quand même une épisodes. Mauvaise nouvelle. Wow, wow. J'ai quand même une mauvaise nouvelle. Pour cette année 2023 du Rugby Show, le podcast n'a pas été streamé dans 154 pays.
T'es en train de me dire qu'on a été streamé dans 41 pays, mon gars ?
Ah, 41 pays, on comprend toujours pas comment notre podcast a pu être écouté en Malaisie, il fait déjà bien assez chaud là-bas.
J'ai ma petite idée, je crois que rugby ça veut dire actualité en malais.
Ah ok.
Voilà. C'est bon à savoir.
Moi j'avais surtout envie de parler de nos auditeurs, que je voulais remercier chaleureusement pour leur fidélité, et qui même s'ils ne le savent pas encore appartiennent à une communauté vraiment très variée, puisque le genre musical préféré de nos auditeurs est le rap français, alors que 35% d'entre vous ont plus de 35 ans.
Oh là là, emoji cœur sur tous nos auditeurs.
Parmi vous, il y a 102 auditeurs qui sont beaucoup plus chauds que la moyenne. Puisqu'ils ont pensé à laisser une note au rugby show sur les plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcast, pour une moyenne de 4,9 étoiles, ce qui nous fait extrêmement chaud au cœur. Vous ne pouvez pas savoir. Oh là là.
Vous faites très plaisir. On est beaucoup mieux noté que la pizzeria en bas de chez moi.
Les avis sont encore ouverts. Vous avez encore quelques jours pour laisser des avis pour cette année.
Les avis sont flamboyants.
Effectivement, et ce qui nous là on va attaquer cette année 2024 encore plus chaud au moment du coup d'envoi du tournoi Destination qui arrive le 2 février. Le rugby show fêtera ses 1 an. On va faire une fête tellement inoubliable qu'on ne s'en souviendra plus.
Ah ça mon gars, on risque de pas s'en souvenir puisqu'on sera au Vélodrome pour le France-Irlande mémorable dont on ne se souviendra plus. Mais l'an prochain, rassurez-vous, hein, on annonce 50 degrés supplémentaires sur la planète rugby, le rugby show ne vous abandonne pas. On revient encore plus fort, encore plus grand, encore plus chaud. On va tenter des nouveaux formats, on va être tous les lundis à 21h sur Twitch. Évidemment, nos lives seront enregistrés et il vous sera possible de les écouter sur les plateformes de streaming habituelles. Merci Thomas pour ce récap, merci pour ces chiffres, merci à la Data Science, merci à vous chers auditeurs d'être là chaque jour à nos côtés sur les réseaux et on commence tout de suite avec un épisode bouillant et un ami chaud surprise, c'est parti.
Bon allez jingle. Clément, lance-moi le générique gros.
Jingle.
La, 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 la. Rugby show, rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, rugby show, bienvenue au rugby show.
On le disait avec Thomas, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année 2023 du Rugby Show. Last but not least, comme disent nos ennemis anglais, le dernier mais pas le moindre, mais pas le moins bon. Et pour animer cet épisode, je ne peux que souligner l'absence de votre deuxième chroniqueur préféré, Elios, perdu comme Brive la Gaillarde dans le ventre mou de Pro D2. Mais bien heureusement, et je vous vois déjà sourire, je vous entends sourire et ça c'est rare, j'ai à mes côtés le grand Berton qui le remplace au pied levé suite à une offre postée sur LinkedIn. Merci Victor de nous rejoindre. Et évidemment, toujours autour de la table, le grand Totiche, qu'on ne présente plus. Comment ça va les gars ?
Oh, tu parlais de deuxième chroniqueur préféré. Qui c'est le premier ?
Eh ben, on se demande. On reste flou là-dessus.
Moi, je représente toujours la Corrèze. Hein.
Aïe, 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 la Corrèze. Manquez plus que ça.
La mafia est là, la mafia est là.
Ça va, Victor.
Ouais, ouais. Vive le canard et vive le 19.
Avec un micro flambant neuf. Putain, ah, ça, ça va être un épisode chaud.
Ouais, c'est un JBL, il change de couleur.
Elios qui se sent remplacé doucement, là, c'est compliqué. Les gars, j'ai envie tout de suite, moi, de vous mettre dans le feu de l'action, qu'on parle un peu de rugby, parce que je vous rappelle que c'est pour ça que les gens...
Raconte-moi.
On en parlait en introduction, mon petit Thomas. L'année 2024, on espère qu'elle va être encore plus folle que l'année 2023 pour le rugby show. Et ça commence très fort en 2024, notamment pour le rugby français et pour l'équipe de France, puisqu'il y a le tournoi des Six Nations, et plus précisément un France-Irlande au Vélodrome, le 2 février. Alors, je vous propose qu'on profite un peu de ce dernier épisode pour passer au crible la forme de nos internationaux, grâce à ce que l'on peut apprécier en ce moment en Coupe d'Europe, qu'on capte un peu les formes et les méformes de notre 15 de France qui va devoir se remobiliser en février. Alors, une petite question pour vous, les gars. Imaginez un instant que vous êtes Fabien Galthié. Je vous laisse fermer les yeux, là, parce que il faut vous projeter. Imaginez que vous êtes Fabien Galthié et que vous ne pouvez regarder qu'un match ce week-end, car Elena Noguera, votre compagne, voulait passer un peu de temps avec vous avant le tournoi des Six Nations. Quelle équipe est-ce que vous choisissez de regarder ce week-end, et pourquoi ?
Ouh, que c'est chaud cette question, gros. Il y avait un gros match, un gros match comme d'habitude, souvent en Coupe d'Europe, les Harlequins contre Toulouse, mais c'est peut-être pas le match que j'aurais regardé. Moi, il y a vraiment une équipe qui m'excite en ce moment. C'est l'UBB. L'UBB qui est en forme internationale avec un Damien Penaud qui s'est adapté, qui a fait une adaptation express dans son nouveau club, qui a quitté Clermont, mon club de cœur, le club de cœur de Victor. Ça nous fait mal de le voir briller autant à l'UBB, mais qu'est-ce qu'il est fort.
Moi, pour ma part, ah non, c'est Galthié ou Urios qu'il faut imiter. Non, si j'étais Galthié, ouais, l'UBB, c'est incroyable, hein, c'est bandant au possible la ligne de trois quarts, c'est terrible, quoi.
C'est les Galactiques.
Mais c'est l'équipe de trois quarts de l'équipe de France pour les Six Nations. Il n'y a pas Dupont, ce sera Lucu. Il y a Jalibert, il sera là. Il n'y a pas Ntamack, ce sera Jalibert. Eh bien, Bureau 115, pourquoi pas, hein. Des fois, on se dit, bon, il y aura Ramos normalement, mais Ramos, ça se trouve, des moments, il va être un peu amené à jouer 10, peut-être. C'est fort possible. Après, Buros, il est vraiment bon dans ses prises d'intervalle, sous les ballons hauts, en défense, il est intraitable. Franchement, il est excellent. Après, on prend Moefana, Penaud et Bielbarré, c'est incroyable, quoi.
Ouais.
Et t'as un champion du monde, quand même. Un des co-capitaines champion du monde du vin, Nico Deporter, qui lui aussi brille parmi cette ligne de trois quarts. Et franchement, c'est pas le dernier, hein.
Ah ouais.
Mais c'est même Galton et lui de porter, ça m'excite à mort, hein. Ficou là au Racing qui loupe deux plaquages, c'était les portes de Saloon en attaque, il était inexistant, je peux te dire, moi je me ferais du souci, hein.
Et Moefana, que moi je trouvais un peu absent en équipe de France, enfin en tout cas qui était pas la plus grande lumière du 15 de France, il fait quand même une grosse saison avec Bordeaux aussi, hein.
Il est énorme. Littéralement, c'était le joueur, je disais, oh, il est moyen, mais parce qu'on le disait d'être à l'aile à gauche, d'être à l'aile à droite, d'être un peu au centre, jamais bien positionné. Là, il est installé à son poste. Bru lui a donné toute sa confiance et il performe comme jamais, quoi.
Surtout que Galthié, c'est un peu bâtard parce qu'il le fait jouer dans un rôle à la Danty alors qu'ils ont un profil hyper différent. Donc forcément, il brille pas trop en équipe de France. Mais là, c'est sûr que dans cette ligne de trois quarts, est-ce que France-Irlande le 2 février, quel joueur de la ligne de trois quarts de Bordeaux ne sera pas dans le 15 de départ de l'équipe de France, quoi?
Tapouaille, parce qu'il est pas français, mais c'est tout. Mais sinon, non, ils y seront tous, quoi. Enfin, ouais, Bureau, il sera peut-être sur le banc, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit même... Faites dans les 23. Hein.
Ouais, carrément. Alors là, c'est Franchement, ils nous font kiffer depuis le début de la saison. Là, j'ai hâte d'avoir le groupe de Fabien, que Fabien Galthié annonce sa liste. D'ailleurs, ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont changé un petit peu les modalités de travail. On travaillait avec un groupe à 42 jusqu'au mercredi. Ça va être un petit peu modifié, ça.
Ouais, c'est quoi ? C'est le groupe qui rétrécit, c'est ça ?
C'est ça, ils vont passer à 38 joueurs. Enfin, c'est en cours de discussion, mais en tout cas, ils étaient pas sûrs de continuer à 42 parce que les clubs, ils en ont marre d'avoir
42, c'est beaucoup,
de plus avoir aucun joueur. Donc, ça va réduire un petit peu la voilure. Bon, tu peux quand même travailler confortablement à 36, 38. Et je crois qu'ils combleront.
Et plus de jeunes, je crois.
C'est ça, ils combleront la différence avec des jeunes.
Ce qui est super sympa, parce que ça, pour le coup, donner la place à la jeunesse, c'est ce qui a payé en équipe de France depuis 4 ans. Hein.
Tu donnes la place à un U20 de Pau, il est peut-être très prometteur, mais c'est quand même différent que de lancer un jeune qui est quand même déjà en top 14, ou un mec qui n'est pas forcément si jeune, mais qui aurait sa place dans le groupe des 42, tu vois. Dans le groupe élargi, ça permet de faire rentrer des mecs à l'entraînement, et puis après, un an plus tard, les mecs ils sont sur une feuille de match, mais ça fait déjà un an qu'ils s'entraînent en équipe de France, donc ils ont toutes les combis, ils ont le système bien en tête, quoi.
Mais après, en plus, ça dépend de quel jeune tu pars, parce que on a quand même trois générations qui viennent d'être successivement champions du monde des U20. On a un panoplie de jeunes, enfin une panoplie exceptionnelle, comme on aura peut-être jamais, hein, je veux dire, être trois fois champion du monde d'affilée en U20, c'est sais pas qui c'est qui l'a fait, peut-être les All Blacks, les Baby Blacks, quoi, qui ont réussi à un petit moment, mais je veux dire, c'est-à-dire, on a une profondeur, en fait, qui va arriver sur les 10 prochaines années, qui va être incroyable. Et donc, déjà, commencer à intégrer peut-être des joueurs qui sont plus en Pro D2, qui jouent à Grenoble, enfin, je prends par exemple Massa ou Montaigne en première ligne, ça se trouve, ça peut être vraiment hyper bénéfique pour eux, ça peut les faire même exploser, voir que le super haut niveau, bah, ils en sont pas si loin, enfin, voilà, c'est motivant pour des jeunes.
Ah ouais, je suis totalement d'accord. Et moi, je suis pour, de toute façon, ces groupes élargis. Messieurs, excusez-moi, juste pour terminer sur Bordeaux, parce qu'on a quand même, à mon avis, oublié d'aborder un élément majeur de cette ligne de trois quarts, c'est Damien Penaud et son intégration ultra rapide au sein de l'UBB. Le gars est quand même devenu un moteur des performances de Bordeaux. Et une intégration mais évidente, quoi.
Le mec il marque au moins un essai par match, voire deux, donc c'est tout simplement n'importe quoi. Je crois qu'il avait filmé 8 essais dans les 5 derniers matchs, enfin, le mec, alors qu'il revient de la Coupe du Monde, tu vois, ça s'est pas passé pareil pour tous les internationaux, hein.
Pas du tout, c'est rare, hein, de performer aussi fort, aussi vite. Après, moi j'étais le premier rageux supporter de Clermont, et à chaque photo de Damien Penaud avec l'UBB, je m'étais été moche dans ce maillot, tu vois, mais donc, ça me mettait un petit peu les boules, en fait, tu vois, de le voir aussi bien performer, alors que bah, les six mois d'avant, il avait été presque inexistant avec Clermont, c'est ça qui est dingue, et là, il est sur une autre planète, quoi, enfin, on dirait qu'il joue même pas dans la même catégorie. C'est assez hallucinant. Il va plus vite, il est plus puissant. Et en défense, qu'est-ce qui lui arrive ? Il loupe un plaquage. Enfin, bon, non, mais c'est dingue, quoi.
Ouais, c'est vrai. Il surfe sur le top 14. Et c'est, comme tu dis, réussir à se remobiliser après un enjeu international, franchement, c'est pas facile. Hein. Retrouver l'envie, retrouver repartir en Coupe d'Europe sur des terrains boueux quand t'as joué sous le feu de projecteur, compliqué quand même.
Ah ben moi, je ne l'imaginais pas performer comme ça, par exemple, à Oyonnax, où il neigeait, et il venait de mettre 4 essais avant. Enfin bon, quand même, c'était hallucinant, en fait. Hein.
Ouais, et tu te dis, ils sont pas tous fait la transition de la même manière, mais peut-être que la Coupe d'Europe, ça les a quand même aidés à basculer depuis la Coupe du Monde, puisque quand tu rentres de la Coupe du Monde, c'est le top 14, il y a déjà eu 3 journées de top 14 avant le début de la Coupe du Monde, une grosse coupure, et puis tu arrives dans un championnat qui est déjà en cours, c'est un peu difficile, et tu sentais notamment au travers des déclarations d'Hugo Mola, que ça allait faire du bien à tout le groupe de basculer sur une nouvelle compétition, ça allait attaquer le premier match, voir un peu du sang neuf, et les internationaux de Toulouse qui se sont fait pas mal critiquer, notamment Dupont qui est tout le temps dans la lumière, on en attend toujours des caisses de lui, et bon bah il était pas flamboyant, mais il jouait quand même à un très bon niveau en top 14, bah là je pense que ça lui a fait grave du bien cette Coupe d'Europe, là pendant 2 matchs il a quand même fait pas mal d'actions de classe, quoi.
Ah bah, je suis d'accord avec toi. Et pour répondre à ma propre question de quelle équipe j'aurais regardé si j'avais été Fabien Galthié, j'aurais regardé Toulouse aussi ce week-end. Parce que franchement...
Et heureusement, il n'a pas regardé qu'un match, Fabien, ce week-end. Hein. Il s'est fait plaisir devant Toulouse vers le Queen.
Malheureusement, il n'a pu regarder qu'un seul. Malheureusement, j'ai des... Enfin bon, je connais bien.
50 pour le Queen, c'est hallucinant. Hein.
C'est hallucinant. 51, si tu prends le point de Ramos sur Smith.
Ouais, ouais. c'est très beau geste, c'est l'action du match quand même.
Ouais, évidemment, on n'aime pas le jeu dangereux, mais bon, voilà, Ramos c'est un homme de sang, il n'aime pas perdre la bataille. On l'avait dit pendant la Coupe du Monde.
Mais en même temps, Smith il mérite. Hein. Avec sa tête de petit anglais parfait.
Ah, enfin, Toulouse quand même qui nous fait aussi extrêmement plaisir, c'est aussi l'équipe des Galactiques quand ils arrivent, franchement c'est pas légal les avants de Toulouse quand tu regardes la composition à chaque fois, tu vas te prendre ça dans la gueule, franchement tu te chies dessus, mais ça doit être horrible.
Mais t'as vu Meafou par exemple?
Ouais.
Moi j'ai hâte de le voir en équipe de France. Hein.
Ah ouais. Non mais ça va être monstrueux. Ça va être incroyable.
Avec Twilagi, Poso Twilagi, mais à vous, c'est quoi cette deuxième ligne? Et Antonio qui en fait sort de sa retraite. Voilà, il y a 800 kilos en 3 joueurs. C'est hallucinant, quoi.
Ah là là, ouais, mais là, on parle des équipes en forme, mais t'as des équipes qui galèrent quand même un peu plus, et les démons sud-africains qui sont revenus ce week-end, Clément.
Ah, les démons sud-africains qui sont revenus sur une pénalité encore en fin de match pour La Rochelle qui leur coûte le match, un drop raté de Hastoy aussi, si je me trompe pas.
Bah ouais, on rappelle le contexte, c'est La Rochelle, ils perdent chez eux contre le Leinster, donc bon, défaite à domicile, un peu dommage, mais ça va, c'est le Leinster.
Mais bon, c'est le Leinster.
Et là, ils vont jouer en Afrique du Sud contre les Stormers, donc qui est quand même une des grosses équipes d'Afrique du Sud, et ils mènent pendant tout le match, ils dominent, ils sont là, ok, on a perdu à domicile, on va aller la chercher à l'extérieur cette victoire, et sur la sirène, ils se prennent un essai en coin, mais plus en coin, tu peux pas faire, et là, c'est Manili Bok. Le non-buteur sud-africain qui la prend, on se dit, ok, il va la rater. À ce moment-là, il y a 19-20.
Celui-ci, on le connaît.
Il y a 19-20, et le mec la passe. Sur la sirène. C'était un match terminé. Voilà, oh là.
Ouais, franchement, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Il y en a qui vont mal dormir. En équipe de France, on en connaît qui étaient déjà traumatisés, qui vont retourner chez le psy.
Aldrit, qui prenait sa période de repos, je peux te dire, il est pas prêt de revenir. Hein. Quand il voit ça, là,
De toute façon, ce sport, c'est trop nul.
C'est clair. Et La Rochelle, ça fait mal au cœur, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux, hein, le début de saison. Hein. Enfin, ils ont eu des défaites à domicile. Bon, ils n'avaient pas les internationaux, mais même là, avec les internationaux, c'est pas du très beau rugby ce qu'ils ont présenté au Leinster. Et là, c'est une défaite, en fait, qu'à l'époque, ils auraient forcément gagné, parce que là, si on voit les saisons passées, ils gagnaient beaucoup de matchs à un point près ou à un point dominé, mais ils arrivaient à revenir, à s'imposer physiquement. Et après, c'est sur les détails. Hein. Bougarit ne se blesse pas, est-ce qu'il ne gagne pas
Il y a quand même un gros détail, c'est qu'Aldrit est encore en vacances. Est-ce que ça aurait fait la différence pendant ce match, Victor?
Ah oui, clairement. Bah, quand t'as un joueur de, c'est peut-être le meilleur troisième ligne qu'on a vu enfin en France et même je trouve internationalement.
Ah bah ouais.
T'as pas, c'est ce qui se fait de mieux. Bah, dans un match comme ça, ça fait forcément le point ou deux de différence et qui te fait gagner. La faute qui fait ça, le grattage qui va faire la différence. Enfin, c'est des voilà. À la fin, il y a eu 60 minutes avec un jeune talonneur de 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
C'est des mini
actions. Le début de match de Bougarit, par exemple,
oh là là.
C'est phénoménal.
Je vais offrir le premier respect.
Mais voilà, c'est incroyable. Et puis on se dit, c'était un match parfait pour lui, un peu physique, mais où il y a des espaces parce que c'est un peu le super rugby quand même. Voilà.
L'autre équipe, les gars qui passent complètement à côté de sa Coupe d'Europe, là, alors qu'elle ne passe pas, elle, pour le coup, à côté de son. Enfin, elle ne passe pas à côté de son entrée en top 14, c'est le Racing 92. Racing, ça fait chier, ça fait beaucoup de peine à votre deuxième chroniqueur préféré, Elios, qui avait mis beaucoup d'argent sur la victoire du Racing le week-end dernier. Le Racing, on a du mal à comprendre quels sont... je sais pas, est-ce qu'il joue la compétition, est-ce qu'il priorise le Brennus, c'est bizarre, ça se trouve un peu.
C'est vrai qu'ils ont quand même, ils ont trois équipes, le Racing, trois équipes A, ils ont des recrues de malade, il y a Tuisova qui n'a même pas encore joué, ils sont en train de survoler le top 14, ils ont fait déjà deux victoires à l'extérieur, je pense. Ah, mais en Coupe d'Europe, c'est pas encore ça. Hein.
Non, c'est difficile parce qu'en plus, Lancaster, il avait dit, nous, on vise la Coupe d'Europe, on ne va pas faire un passage à vide ou comme ça. Et au final, c'est très décevant. Pourtant, il y a des joueurs qui surnagent. Là, on parlait un petit peu des internationaux. Est-ce que le Garek ne va pas piquer la place, par exemple, de Lucu? Le Garek, pour ma part, je l'ai vu faire son entrée contre l'ASM au Michelin, énorme. Il fait la différence. Il fait presque gagner le match au Racing. Il fait la petite passe comme ça, un petit coup de pied. Il prend un intervalle. Il est très bon. Après, il marque deux essais en Coupe d'Europe. Là, il remarque ce week-end-là. Bon.
Ouais, mais la Connex Lucu Jalibert, tu peux pas la casser.
Exactement. Ouais.
Tu peux pas y toucher. Donc, t'es obligé.
On verra si tu peux pas y toucher. On verra. Non,
c'est compliqué. Après, là, tu me diras, Galtier, pendant un an ou deux, là, il peut faire le petit chimiste. Hein, il peut s'amuser, tester des trucs et voir ce qui se passe.
Ouais,
hein.
Mais Lucu dans 4 ans.
Lucu dans 4 ans, c'est terminé.
Lucu dans 4 ans, c'est un cul.
Lucu dans 4 ans, c'est over.
Et le Garek dans 4 ans. Voilà, mais il faut commencer à installer des fois les joueurs. Il faut commencer à installer peut-être aussi un 10 qui va peut-être aller pas trop mal parce que pour l'instant, on n'en a que deux. Hein. On a Ntamack et Jalibert. Est-ce qu'on aura un Russ voilà, je ne sais pas, mais ça peut être une option aussi en fait pour Galtier d'envoyer des...
Tu parles du Gorus qui est le jeune prometteur, le demi d'ouverture prometteur de La Rochelle. C'est sûr que Astoy, franchement, il doit pas être bien parce que c'est le numéro 3 en équipe de France, Antoine Astoy, et aujourd'hui sa place de numéro 1 est quand même de plus en plus contestée par Hugo Reus, champion du monde du vin.
Ouais, totalement. Astoy, moi j'ai regardé un peu ses matchs, c'est très très décevant en fait. C'est plus le flamboyant Astoy de Pau, même, je trouve.
C'est dommage.
Ouais, c'est un peu dommage. Après, en charnière, ouais, c'est vrai, moi je miserais sur peut-être un Le Garek, voire un Jono, un petit chemin clermontois. Le nouveau petit clermontois qui fait lever tout le Michelin, qui est capitaine de l'ASM à 19 ans, c'est une potentialité en fait pour le prochain Six Nations.
Lui aussi, champion du monde du vin.
Il a pas mal performé. Ouais, je sais pas si vous aviez regardé la Coupe du Monde des U20, mais il avait été juste stratosphérique, quoi, le mec. Hein.
Et en plus, il a tout. Il y en a beaucoup qui le comparent quand même à Dupont, ce Baptiste Jeannot.
Ah, c'est un Dupont bis. Moi, je me rappelle de discuter avec des journalistes de la montagne il y a encore 2 ans et qui me disent « Non, recrute pas un neuf à Prépara. » Ils misent beaucoup sur Jeannot et...
Ils avaient bien raison. Ils misaient mieux qu'Elios, apparemment. En tout cas, l'autre équipe qui s'est un peu trouée ce week-end et ça fait mal, c'est le Stade Français. Le Stade Français, malgré un ami barré absolument géant ce week-end.
Oh là là, il met un essai de 80 mètres après un petit coup de pied par-dessus. Ma che bello.
C'est deux derniers matchs énormes, quoi. Énormes. Je sais pas si vous avez regardé les deux matchs. En tout cas, des actions tranchantes, très en canne, très, très aérien aussi comme joueur, un coup de pied vraiment long, donc très bon dans l'occupation. Ça fait aussi un deuxième choix en fait, avec un second et lui au pied, ils occupent à merveille en fait. C'est très prometteur pour l'équipe de France en fait. Ça peut un peu faire un très bon Ramos bis en fait, si vous voulez.
Il est polyvalent en 10-15.
Ça serait fou.
Et il met un doublé contre Toulouse en plus, hein. Quand ils reçoivent Toulouse et qu'ils les ont matraqués là, c'était surtout lui.
C'est lui le monsieur de la raison. En tout cas, ce qu'on conclut donc, les gars, c'est que Galtier a du pain sur la planche et a beaucoup de boulot et que les choix vont être difficiles pour lui, à la fois entre les internationaux qui continuent à fonctionner, hein, on pense à notre ami Penaud ou à notre ami Bourga, mais aussi les petits jeunes qui arrivent et qui poussent la porte et qui mettent la pression, et c'est peut-être l'occasion d'un tournoi comme celui de Six Nations 2024 qui va être l'occasion pour Galtier de tenter des trucs. Surtout que le tournoi risque d'être un peu suivi parce que, si je ne m'abuse, il va y avoir la sortie de la série Netflix qui va arriver juste avant le tournoi Destination. Et alors, si on imagine que ça va avoir le même impact que, que Drive to Survive a eu sur la F1, ça risque d'être énorme, énorme.
Ah là 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 là, mais t'imagines qu'un sport aussi peu pratiqué que la Formule 1, puisque personne ne le pratique, je comprends qu'il y ait des fans, etc. Mais là, le rugby, c'est mondialement connu. Aujourd'hui,
tu pratiques pas la Formule 1 ?
Alors, j'ai pas eu la chance encore de le pratiquer. Je pratique le... je suis un peu pilote, mais... Mais je suis plus rugbyman que pilote, et une série comme ça peut que exploser. L'attractivité du rugby, ça va la booster. Enfin, en tout cas, on espère que ça. Et je crois que ça va booster le rugby show aussi.
Ouais, Formule 1, je le prenais pas en voiture, je le prenais en hôtel souvent.
Ce qui fait un peu chier, c'est que ce sera pas le grand chelem qu'on verra à l'écran.
Ah, pourquoi?
Bah parce que ils étaient dans les... Non, parce qu'ils ont filmé l'an dernier, donc c'est les images qu'ils vont nous montrer, c'est... Ça,
c'est le grand chelem irlandais, quoi.
A priori, à l'épisode 7, tu lâches une larme.
mais après, c'est la passion du rugby qui va être mise un peu aux yeux de tout le monde. On va avoir plein d'Américains qui vont se mettre au rugby, hein, je pense.
Ça va être magnifique. Tu vas avoir des témoignages face caméra, etc. Ouais. Tu vas avoir les caméras dans les vestiaires à la Canal+. Ça va être énorme, ouais. Ça va être énorme.
Ah, j'ai hâte. C'est quoi, elle sort quand, cette série? Le 24 janvier, un truc comme ça?
Je sais pas. Ouais, je crois qu'ils la sortent globalement pour que les gens puissent la bouffer juste avant le Six Nations, quoi.
Bah,
tu fais un épisode par jour jusqu'au Six Nations et t'arrives au Six Nations, t'es... Ah,
Scrum to Survive.
Ouais, c'est dingue. Comme un dingue. Ah ouais, ça va être fou, en vrai. Ça va être complètement fou.
Ouais, on a découvert qu'on était diffusé dans 41 pays. On place des mots en anglais. Je sais pas si vous avez remarqué. On s'internationalise. Rugby show. Rugby hot.
C'est d'ailleurs le premier épisode sous-titré.
Yes, but we are in French, we speak French.
Allez, les références à Chabal, ça on adore, ça nous fait toujours très plaisir. Mais je crois que l'hiver s'est aussi marqué par des transferts, par un mercato, et Berton, t'avais un petit sujet à aborder là-dessus.
Bah ouais, c'est quand même que le mercato, c'est quand même assez dingue. On dit que la période la plus importante, c'est souvent de octobre à décembre. Et je trouve c'est assez marrant en fait de se dire que tu as des joueurs, par exemple comme Ezeala, qui est parti de Clermont, qui a joué 3 mois à Pau et qui a déjà signé au Stade Français pour l'année prochaine. En fait, on parle souvent d'un sport où on est attaché à une équipe, on est attaché au groupe. Et puis en fait, des fois, maintenant, on joue des saisons entières où on sait que l'année prochaine, on n'est plus là. Alors, est-ce que Pau qui performe et Ezeala, ça, peut-être Pau et Stade Français vont se battre pour être dans les 6, hein, quand on voit, et c'est bien parti pour. Et est-ce que Ezeala, quand il va jouer contre Stade Français, il va vouloir marquer l'essai ou plutôt partir en touche?
Ça dépend le chèque qu'il a pris sous la table.
Voilà. Voilà, mais non, mais c'est assez étonnant quand même, comme cette période de transfert assez, assez intéressante. Après, on voit aussi les gros joueurs, quand on les voit, ils sont signés souvent même bien avant décembre, quoi. On dit après décembre, t'as plus de très grands joueurs que tu peux engager, quoi. Et on voit par exemple quand même Clermont, par exemple, comme je les suis, mais qui viennent de signer un petit pilier droit, capitaine de quand même des Samoans, et qui est le titulaire du Leinster. Donc vous voyez qui je veux dire.
Ça serait pas un certain Alalatoa qui a pris un carton rouge en finale de Champions Cup contre La Rochelle?
Ouais, mais bon, ça fera toujours mieux que Slimani, quoi.
On adore recruter les mecs qui prennent des cartons à Clermont entre Lavanini, Kramer, Alalatoa. Ça va être une équipe de lumière.
Yo-Yo aussi, il recrute là-dessus, en vrai.
Ouais, carton rouge ou pas. Enfin, ouais, c'est vrai que tu te dis, là, t'as une équipe de tueurs, hein. T'as Jutiato, Lee, qui plaque plutôt à la gorge que à la ceinture.
Tu sors pas en boîte. Ouais, après les matchs, tu sors pas en boîte parce qu'il faut pas les croiser.
Non, ils sont violents. Ouais.
Non, mais c'est un sujet intéressant que tu mets sur la table, cette période de transfert hivernal et ce truc de pour qui est-ce que les gars vont se battre. Est-ce que vraiment t'arrives à te changer de mindset en une semaine, quoi, et en un repas de Noël, à te dire bon bah à partir de maintenant je troque mon maillot et je change de coéquipier? Franchement, c'est pas facile.
Non, mais t'as des transferts qui se décident en plus ultra rapidement. Je prends l'exemple de Aymeric Luc, par exemple. On va dire que Ils ont quand même signé Jaminé 2 semaines avant. Ils voient qu'il a un concurrent. Paf, ils signent Apo juste derrière. Bon, c'est assez bizarre quand même cette période de transfert. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ce n'est pas un peu comme le foot où on est habitué à juste un mois. Et puis, comme il y a des indemnités, bon, bah, ça change un peu la donne. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment inquiétant, moi, des fois, pour l'esprit rugby, en fait.
Bah c'est ça, on a l'impression que ça on s'assume pas trop, on essaye de le faire un peu en payant les indemnités etc, mais à la fois on veut le faire un peu à moitié, enfin on s'y retrouve pas trop, et en ce moment c'est pas hyper lisible ce type de période de transfert, je trouve.
C'est ouais, les infos. Et maintenant il y a un autre petit phénomène aussi, c'est que on va à la course aux jeunes. Je sais pas si vous avez lu la dernière news de Arundel qui va devenir GIF. Alors que le mec a déjà une dizaine de sélections quand même en équipe d'Angleterre. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Ils ont réussi à lui faire signer 3 ans de contrat espoir avant 23 ans. Donc, il va pouvoir être GIF pour le Racing.
Oh là là.
Ça, c'est quand même hallucinant, non?
Encore le Racing.
Ouais.
Oh là là,
Jackie
là.
Trop fort. Jackie, ouais. Pas vu, pas pris, Jackie.
Non, mais je trouvais ça hallucinant. Mais en fait, on voit que c'est la course au GIF ou la course au GIF de moins de 20 ans. Je prends l'exemple de Clermont. On a signé Montagne et un autre pilier droit. Montagne, c'est le pilier droit, et Massa, par exemple, de Grenoble, avec une petite indemnité. Mais on les signe tôt. On en fait devenir GIF chez nous.
Bah ouais, petit rappel sur la règle des gifs. Sur une saison, ouais, je pense qu'il faut avoir une moyenne de 16 gifs par feuille de match. Et donc les gifs, c'est les joueurs issus de formation française. Donc soit qui sont français, soit qui ont fait des centres de formation en France, ou qui ont passé 5 ans en France avant leurs 23 ans. Enfin, la règle assez complexe que visiblement Jackie Lorenzetti maîtrise très bien, le président du Racing. Mais du coup, ouais, c'est pour favoriser la formation française et on en est fiers. Et tant mieux, mais parfois on s'y retrouve pas trop.
Non, mais ce qui est assez dingue, c'est que c'est normalement favorisé pour la formation française, et là on vient même défavoriser les Anglais avec Arundel. C'est hallucinant parce qu'il est au Racing, il peut pas être en équipe d'Angleterre, et donc c'est quand même
trop fort.
Est-ce que défavoriser les Anglais, c'est pas favoriser les Français un petit peu?
Ah bah, c'est
un petit peu, mais même là on vient par exemple avoir Meafou, on l'a chopé jeune, mais il est australien, hein, tu vois, et
non, mais c'est génial.
Et donc on arrive quand même maintenant à amener des joueurs en équipe de France parce qu'on va les chercher très tôt, on les révèle chez nous, mais tant mieux pour nous.
Tu peux pas perdre la Coupe du Monde s'il n'y a pas d'équipe adverse.
Intelligent.
C'est ça la stratégie, mon vieux. Non, ben bah, bien sûr, ouais, c'est un peu, ouais, je pense que ça se construit aussi le transfert. Le rugby est en train d'avoir plus d'argent, le rugby moderne est en train de prendre en galop. Donc c'est, je pense que voilà, politiquement etc, c'est aussi des choses que les entraîneurs et les équipes sont en train d'apprendre à faire, et j'ose espérer que dans quelques années il y aura plus de clarté et que ce sera un peu précisé.
Mais ça tend vers plus le foot, hein. Aujourd'hui on voit de plus en plus de clubs indemnisés, et même j'ai eu une autre news de la semaine, c'est que on a maintenant les clubs qui demandent à ce que ça soit les joueurs qui paie les agents.
Ouais, j'ai vu
ça. Et ça change beaucoup de choses, en fait. Ça fait que dans le salary cap, normalement, tu es obligé de payer tes joueurs beaucoup plus, parce qu'un agent, c'est un certain prix.
Ça prend 10-15%.
Ben voilà, mais du coup, c'est qu'il va falloir augmenter quand même les salary cap pour que les joueurs ne perdent pas en pouvoir d'achat, on va dire.
Ouais.
Dans ce monde où il y a beaucoup d'inflation, même s'ils vont des beaux salaires quand même, mais non, ça, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais,
c'est,
bien sûr.
Ça se professionnalise encore plus, et c'est de plus en plus un peu la course à l'argent. Mais après, avec les nouveaux sponsors, les grands, on voit beaucoup de très grandes entreprises, de très grands cadres s'intéresser au rugby, et donc ça fait que on tire vers cela. Mais espérons qu'on arrive à le faire sans perdre l'esprit rugby quand même.
L'esprit rugby, justement, Thomas, je crois que c'était un de tes petits sujets un peu coup de gueule de fin d'épisode, avec les Boxing Days, ta période préférée avant Noël.
Oh, m'en parle pas. Je suis content d'être sur mon canapé un 23 décembre à regarder un match de rugby. Mais franchement, les gars, on a un calendrier qui est surchargé toute l'année. Ils savent plus quoi faire de leurs dates. Et du coup, ils calent des matchs aux internationaux le jour de Noël, quoi. Je me rappelle l'année dernière, il y avait 6 matchs le 24 décembre. Tu te dis, mais les mecs, gros, les Sud-Africains ou même le mec qui va jouer à Paris et qui habite dans le Sud, il peut pas rentrer chez lui et dîner avec sa famille. Cette année, le calendrier, il tombe un peu mieux. Les matchs sont plutôt le 23 décembre. Donc, tu dis que ça leur laisse le temps. Mais imagine pour les joueurs étrangers, etc. Genre, les mecs, laissez-les souffler. Sympa, hein. Ils sont là, ils sont en Coupe d'Europe, ils voyagent. Ensuite, il y a Noël, ils doivent rentrer vers leur famille. Et après, ils jouent encore le week-end du 30-31. Alors franchement, pas une période facile pour les mecs. Hein.
Et puis, tu favorises les blessures en plus, parce qu'il faut pas croire que les mecs ne vont pas être... Oh là là. Enfin, tu vois, les gars sont obligés de faire la bringue. Enfin, évidemment, tu vois, c'est Noël partout en France. Tu crois qu'eux, ils sont en train de réviser les combis en touche. Non, mais n'importe quoi, tu vois. Évidemment que les gars, ils font la bringue. Et du coup, quoi, ça favorise les blessures. Tu te retrouves aux 6 nations, claquage pour la moitié des internationaux au bout de 2 jours de préparation. Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est un peu relou ce calendrier.
Ouais, et il y a une petite particularité pendant ce Boxing Day, parce qu'il y a Toulouse qui va recevoir Toulon, et donc une des grandes attractions de ce mercato dont on parlait, c'est Jaminet qui est parti de Toulouse à Toulon justement très récemment. Il est revenu chez lui qui a été formé dans le sud, et enfin plutôt dans le sud-est à Toulon, et là il pourra pas jouer contre Toulouse. Pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'il peut pas jouer ?
Pourquoi, me demanderez-vous ?
C'est encore une affaire de contrat.
Eh bien si, c'est un accord entre les dirigeants. Évidemment, les dirigeants toulousains, ils sont pas débiles. Ils lâchent un joueur en cours de saison, ils leur ont dit « Ok, on vous le laisse, mais pas contre nous. » Ah là 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 là.
Mais je trouve ça un peu con, parce que justement, le mec, pour moi, il aurait joué à 50% de sa forme. Contre Toulouse, c'est toujours difficile. T'as tous tes potes en face de toi. Bon, après,
je sais pas si t'as envie de leur prouver, justement. T'as encore plus envie de prouver. T'as tes potes, tu dis « Ok, après, je vais me faire chambrer si je perds. » Ah, t'aurais dû rester, et là, et rien que ça fout les nuquettes.
Ah, t'es trop nul. donc quoi, il serait en tribune en regardant ses copains, tous ses copains jouer. Ses anciens copains et ses nouveaux copains en train de jouer ensemble, et puis lui, il est puni, tu peux pas être sur le bac à sable. T'es sur le côté, la maîtresse, elle t'a dit non. En vrai, c'est dur, hein, putain.
C'est dur.
Moi, mon prochain match que je vais voir, c'est ASM UBB le 29, retour de Penaud à la maison.
Oh là là.
Et lui, il a le droit de jouer, hein, par contre.
Oh là là.
Et il va vous en mettre un ou deux, ouais. Ça a été c'est sûr.
Il va sûr bien accueillir, non ?
Ouais, vous inquiétez pas, on va préparer des chansons sur lui et sa femme, là. Hein.
Oh là là, finir l'année là-dessus, c'est quand même terrible.
Montez le volume, hein, pour UBB Clermont.
Montez le volume, vous allez entendre Berton chanter. Vous le reconnaîtrez. Merci les gars pour cet épisode qui, je le rappelle, est donc le dernier épisode de l'année du Rugby Show. On finit l'année en beauté. L'année prochaine, 2024, ça va être une année magnifique. On vous prépare énormément de surprises. Déjà le format qui va un petit peu évoluer, parce qu'on sera en stream tous les lundis à 21h sur Twitch. On est en stream à partir du, c'est le combien Thomas, je crois le 9 janvier, quelque chose comme ça,
le 8 janvier, bref, monsieur, mais évidemment le 1er janvier on sera trop explosé pour faire le stream, alors on attend le deuxième lundi de l'année.
On vous donne rendez-vous le 8 janvier en live sur Twitch, mais ne vous inquiétez pas si vous ne savez même pas ce que ça veut dire Twitch, il n'y a aucun problème, puisque nos épisodes seront évidemment diffusés sur vos plateformes de streaming préférées. En tout cas, 2024 s'annonce être une année très très chaude, plus de 50 degrés supplémentaires sur la planète rugby à cause du Rugby Show. On vous prépare plein de surprises, merci d'avoir été fidèles cette année, et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud, gros.
C'est chaud. Ça va être tellement chaud sur Twitch.
Oh, mais c'est chaud.
Ouais. C'est tellement chaud. On va streamer en slip.
Rugby show, rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show.